Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Un solo golpe na man.
Comme vous l'avez peut-être compris, nous allons nous diriger cette semaine vers les musiques latines, plus précisément afro-cubaines. Et nous devons ce voyage multiculturel non pas à Chucho Valdés, Omar Sosa ou à Harold Lopez Nussa, mais à un bassiste camerounais de renom qui a montré de longue date sa fibre universaliste. Il vit désormais à New York, fréquente des musiciens de tous horizons et nous fait l'honneur d'une visite dans l'épopée. Richard Bonnat, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour Dior.
Vous nous présentez aujourd'hui Heritage, ou Heritage, un album tourné vers les sonorités d'Amérique centrale, plus spécifiquement cubaine. Vous vous êtes d'ailleurs entouré de musiciens caribéens et sud-américains de grande valeur. Pourquoi cet intérêt pour les couleurs sonores de la Havane?
Bah, c'est un vieux projet que j'ai toujours eu comme ça. Et étant donné que cette île, il faut dire que cette musique elle a 5 siècles quand même, hein, l'existence et tout. Et j'aime l'histoire, moi, à travers la musique, en fait. La musique est un livre d'histoire, voilà, en gros, pour moi. Et à travers la musique, j'arrive à me refaire une histoire. Cette musique est un mélange complexe de musiques venues d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des musiques autochtones. Parce qu'il y avait bien des gens qui vivaient déjà sur place.
Évidemment.
Et avec des instruments dont lorsqu'on regarde le piano, qu'on regarde le violon, la trompette, on voit bien qu'il vient d'Europe. Lorsqu'on voit les maracas, c'est pas l'Afrique ni l'Europe, c'est les Indiens qui étaient sur place, qui jouaient beaucoup les maracas. Et qui c'est qui amène les congas, les tambours et tout, bongo, tout ce qui est à compo, qui sont hand drums qu'on appelle, c'est l'Afrique. Donc je pense que même si l'histoire des fois elle est sombre, malgré cette histoire quand même, les gens ont toujours pu créer, fusionner et faire quelque chose de beau qui est l'identité de la musique cubaine aujourd'hui.
Au-delà du lien historique, est-ce que la musique cubaine porte en elle un message africain? Est-ce que vous retrouvez à Cuba une part de votre identité artistique ou personnelle?
Absolument, dans les danses, dans leur façon de chanter, dans leur façon de jouer même. Il suffit d'entendre la clavée elle est africaine.
J'allais vous en parler.
Ça s'arrête. La clavée elle a tout raconté déjà, donc
Il y a peu, dans cette émission, justement, le saxophoniste cubain Irvin Acao nous parlait de la clave. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ce rythme a en commun avec les styles musicaux africains? C'est quoi finalement la clave?
La clave, c'est le guide de la musique noire. Voilà. Je m'aime pas, c'est pas la musique africaine, c'est aussi dans le gospel, que ce soit dans le... C'est le vrai guide de cette musique. On peut pas s'en débarrasser. La musique noire sans la clave n'est pas la musique noire. C'est même le pilier, je vais dire. Que ce soit aux Antilles, que ce soit chez les Jamaïcains, que ce soit dans le gospel, que ce soit dans le rhythm and blues aussi, d'ailleurs. Et en Afrique, alors, tu nous enlèves la clave, ben, tu nous enlèves un poumon. C'est... Donc, ça ne s'explique même pas. On vit la clave. Nous, sans la clave, on n'y est pas, voilà.
Je me souviens qu'en 2005, sur l'album Tiki, vous aviez déjà flirté avec la culture sud-américaine.
Ah ouais.
Et votre curiosité pour ces musiques-là est profonde. Ce n'est pas un effet de style ou une simple tentative artistique.
Non. J'aime aller retrouver mes racines aussi, quoi. Et je sais où, là où elles sont enfouies. Comme je dis, dans la musique, c'est tout un livre d'histoire. Nous avons trois éléments très importants. Lorsque les esclaves arrivaient, même dépouillés de toute leur richesse, démunis de toute leur identité et tout, il leur restait quelque chose. Il leur restait le grain de leur voix, il leur restait leur danse, il leur restait leur manière de cuisiner, leur façon de s'habiller. Et ça, on ne peut pas se tromper. Et donc avec ça, jusqu'aujourd'hui, je peux retracer mon histoire partout où je vais. Lorsque je vais chercher dans les racines, aller chercher, je découvre aussi d'autres choses. Donc, c'est un apprentissage aussi. Je suis un étudiant de la musique. Et la musique est une école qui ne finit jamais. Voilà.
Nous avons ouvert cette émission avec Djoko Djoko. Et puis, il y a de petites ritournelles qui rythment cet album, comme celle-ci.
Mokong malamu nyunga bongi langu longu nyaza. Ita mamori na ngulu mokong. Mokong malamu nyunga bongi langu longu nyaza. Ita mamori na ngulu mokong. Mokong malamu nyunga bongi langu longu nyaza. Ita mamori na ngulu mokong. Mokong malamu nyunga bongi langu longu nyaza. Ita mamori na ngulu mokong.
Ces petits chants qui marquent les différentes étapes de votre voyage transatlantique sont-ils des échos d'Afrique, de la terre originelle, de la source de votre aspiration?
Bah oui, c'est ma racine en fait. Et j'imagine, pendant le voyage, ces esclaves en train de chanter dans la cale du bateau. Ça, c'est le gospel africain, ça. Ça, qu'est-ce qu'ils chantaient? C'est des chansons traditionnelles ou religieuses, quoi. Ça, c'est le vrai gospel africain, ça, ce qu'on vient d'écouter, quoi.
C'est ce que vous entendiez quand vous étiez petit?
Ah, mais c'est ce que je chantais quand j'étais petit. C'est ce que je jouais au balafon quand j'étais petit, et les percussions. Voilà, je pense que c'est un talent inné, en fait. Aussi, j'étais entouré des gens qui le faisaient, quoi. Donc, mon grand-père le faisait tout le temps, ma mère le faisait tout le temps. Donc, j'ai jamais eu un apprentissage vraiment de voix, que ce soit dans mon village. Non, on te prend, ah ben, il a une belle voix. Allez, ben, tiens, chante. Une, deux, trois, et c'est fini, c'est bon.
Je le disais, vous êtes entouré de virtuoses issues de Cuba, mais aussi du Venezuela, ouais, et du Mexique. Qu'est-ce que vous avez appris à leur contact?
Bah, beaucoup de leur musique, de leurs histoires. Parce que moi, je m'imprègne aussi des histoires des autres, quoi. Je vais vers l'autre pour embrasser. J'aime embrasser la différence. Je dis toujours un point très important. J'aime embrasser la différence. Parce que à force de le faire, j'ai fini par embrasser la tolérance. Et quand on a embrassé la tolérance, on a plus ou moins fait la paix avec tous les autres. C'est important. Et à ces jours-ci, on a vraiment besoin de réapprendre aux gens à embrasser les différences.
Vous vous êtes compris naturellement ou est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation?
Il a fallu un temps d'adaptation, pas juste au niveau musical. C'est, on fait beaucoup de voyages aussi, quoi. On vit ensemble, quoi. Il faut apprendre à vivre ensemble. Voilà, c'est une famille. On va passer 2 mois en route, dans le bus, ensemble dans les mêmes hôtels, sur scène et tout. Il faut gérer tout ce monde, quoi. On est 9 en route.
Et vous ne parlez pas espagnol?
Je parle un peu espagnol, mais je parle pas cubain. Ils parlent tellement vite, des fois, je ne comprends rien du tout, quoi. C'est une mitraillette, des fois. Tu entends le pianiste parler, je lui dis, on dirait une mitraillette, quoi. C'est pas de l'espagnol, ça.
Comment vous comprenez? Vous parlez en anglais, ensemble, ou...
On parle un peu en espagnol ou en anglais, quoi. Mm. Ouais.
Richard Bonnat, vous êtes désormais sur le label de Quincy Jones, Quest. Comment vous êtes rencontrés, d'ailleurs, tous les deux?
Quincy et moi, on s'est rencontrés il y a 9 ans. Je jouais à L.A. Et qui c'est qui l'amène me voir? C'est Rod Temperton. Wow. Celui qui est derrière Thriller, celui qui est derrière Off the Wall. Depuis Off the Wall, c'est lui qui a été toujours derrière Michael Jackson. C'est Rod Temperton qui dit à Quincy, il faut que je fasse découvrir quelqu'un. Et ils étaient au restaurant, ils sont servis tard. Et Quincy lui dit, j'ai trop faim, je pense que là, on va louper le concert. Et Rod lui dit, écoute, tu vas aller manger au concert. Il demande à prendre son plat, on prend le plat. Les voilà qui arrivent au concert. Je monte sur scène. Et là, je regarde au premier rang. Je regarde, il y a Quincy Jones qui est assis en train de craquer les os de poulet.
T'es en train de manger le poulet juste devant moi. Ah ben ça, j'ai dit, ben dis donc, ben ça commence bien. Et ben, il a dit, il avait trop faim. Ah là, il a fait rentrer son plat dans la salle au premier rang carrément. J'ai été déconcentré d'entrée, quoi. Tout de suite, j'ai dit non, c'est tout sauf ça, quoi. Et t'entendais le craquement des autres poulets, là, au premier. J'ai dû changer le premier morceau. J'ai dit, je vais commencer avec un morceau ambiance, cool, tranquille. J'ai dit non, là, ça va finir au craquement de zoo, là. Craquement d'eau. C'est... Et j'ai dit, allez, on commence avec un boom rapide, là, un rythme, tout ça et tout. Et il est resté à la fin du concert, on a chatté un peu et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés et on a travaillé depuis toutes ces années, on a fait plein de choses, autant de musique de pub, on est allé en Chine, on est allé jouer pour le roi au Maroc, on est allé, là on va aller à Batumi en Géorgie, on va aller jouer en Angleterre au Royal Albert Hall,
wow.
Peut-être en Russie aussi là, à début d'année prochaine, donc on fait pas mal de choses et puis on s'est parlé un peu, là il savait que j'avais plus de management, en fait je suis chez Quest en management. Voilà. Donc, je suis signé avec Quincy en management. C'est le meilleur management que j'ai eu, quoi. Voilà.
Vous savez ce qu'il appréciait chez vous lorsqu'il vous a vu, justement, sur scène ce fameux jour où il mangeait du poulet?
Après le concert, il est venu me voir. I gotta say some. You are a 360 artist.
Un artiste à 360 degrés,
c'est ça?
Ouais. Voilà. Capable de tout faire, en quelque sorte.
Voilà. Unbelievable.
Écoutons maintenant, Richard Bonnat, le titre « Santa Clara con Montuno ». Je m'y essaye, hein, mais bon.
C'est parfait, Joe. Avec l'accent cubain. Oh, oh.
Un nouvel extrait de « Héritage » ou « Heritage », l'excellent dernier album de Richard Bonnat, notre invité dans l'épopée. La tonalité afro-cubaine de Richard Bonnat sur une composition de Osmani Paredes, c'était Santa Clara con Montuno.
Yes, sir.
Est-ce que les musiciens qui vous entourent sont des personnalités dans leur pays? Car on les connaît mal ici. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui ils sont?
Bah, Osmani, ouais, il vient de Santa Clara, excellent pianiste qui a quitté Cuba. Il faut dire beaucoup de musiciens aussi quittent Cuba dans des conditions. Et ensuite, il est venu aux États-Unis. Je l'ai connu à Boston. J'en avais entendu parler déjà par Gonzalo Gubalcaba qui m'en avait parlé. Et un jour, je suis allé à Boston, on s'est rencontrés et tout. Il jouait un soir. J'étais avec Mike Stern là-bas.
On était off, je suis allé l'écouter jouer. Super. Et donc, quand j'ai fait... Au Sen, c'était sur quoi? Sur
c'était
Tiki?
Tiki, ouais, c'était sur Tiki. Ouais.
Et ben, c'est la première fois où Osman joue sur mon album. Donc, il est venu. Boum. Et du coup, mon projet de Cubain a commencé à se dessiner. Les Fred Quintero, je les connaissais déjà. Ils jouent avec tout le monde. Voilà. J'ai un tromboniste et un trompettiste aussi de Cuba qui sont là, qui officient, qui sont là et qui vont faire la tournée avec moi.
Comment expliquez-vous cet engouement actuel pour les musiques latines et afro-cubaines en particulier? C'est parce que cette culture ou cette musicalité-là est universelle?
Elle est quelque part universelle. On se posait la question, pourquoi quand tu joues la salsa, que ce soit ici, que ce soit en Russie, que ce soit tout de suite, les gens... Et en allant piocher plus loin, bah, tu vois bien que c'est déjà des influences de 3 continents, je dirais même de 4, parce que moi je considère comme un continent, les autochtones qui étaient là n'appartenaient à aucun autre continent. Comme je dis, moi pour moi, la musique est tout un livre d'histoire, quoi. Et plus j'avance, plus je découvre et je me fais moi-même mes histoires. Voilà.
Est-ce que vous diriez que vous avez été un précurseur dans ce domaine? Est-ce que vous pensez avoir insufflé cet intérêt de vos contemporains pour les musiques caribéennes?
Ça s'est certainement fait avant moi. Je n'ai pas checké qui c'est qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Mais le plus important, c'est d'aller vers ces musiques caribéennes là et aller plus... La Caraïbe a une très, très belle histoire, moi, je dis. Quoi. Je ne vais pas me focaliser sur cet accent politique qui veut toujours plus raconter. Chacun veut raconter la tristesse et, la, et tout. Non, non, moi, je veux raconter la joie parce que ces gens arrivés là-bas, ils ont créé quelque chose. Et cet héritage, ils nous le l'ont laissé. Mes références, elles sont là, quoi.
Au-delà du pont que vous avez bâti à travers cet album Héritage, entre l'Afrique de l'Ouest et Cuba, est-ce qu'on peut dire que les cultures africaines sont les matrices des musiques modernes que nous connaissons actuellement, à savoir le jazz, le reggae, la soul music, le guoka de Guadeloupe, le belé de Martinique?
Très, très bonne question, Joe. C'est même le début de tout, quoi.
Ouais.
De toutes ces musiques. C'est le départ de toutes ces musiques. Le métissage s'est fait tout seul. Et c'est un beau métissage. Qui a contribué plus que qui, c'est pas important pour moi. Et moi, je ne suis plus africain, ni européen, ni américain. On a tout aujourd'hui. La musique, elle est là. Elle nous montre, en fait, tous les jours qu'on n'est même pas différent, quoi. Lorsque j'entends encore les gens en 2016 parler de race, j'ai envie d'aller me cacher. Je vois mes semblables partout. Et à travers la musique, c'est ainsi que je veux m'exprimer, quoi. On a tout en commun. Il y a très peu de choses qui nous divisent. Moi, je vois même plus de division. Je vois plus de différence, quoi. Quand on essaie de pousser plus vers l'essence africaine, puis j'ai aussi l'essence asiatique comme l'essence africaine, comme indienne, ou je sais pas moi, partout où je vais, voilà, européenne. Je reviens d'Arménie, là, j'ai été accueilli comme un roi, et ce sont mes frères, bien sûr que ce sont mes frères. Et partout où je vais, et quand tu donnes, eh ben, tu reçois aussi, quoi. Et moi, je veux rester dans cette dynamique-là. Et j'aime bien ce qu'on fait aussi au club à New York maintenant, essayer de faire venir les gamins. J'ai envie de mettre cette impulsion-là aux gamins, de leur faire ouvrir vos bras vers la différence. Embrassez-vous toujours et embrassez les autres. Parce que quand vous avez l'habitude d'embrasser les autres, le karma veut qu'on vienne aussi vous embrasser.
Quelques-uns de vos contemporains, comme David Murray ou même Kenny Garrett, se sont intéressés de près aux musiques de Guadeloupe et de Martinique. Miles Davis lui-même écoutait Kassav. Est-ce que vous avez déjà tenté de vous rapprocher de ces cultures ancestrales-là?
Je me suis plus que rapproché. Ces dernières années, en allant à Cuba, j'étais dans toutes les fêtes traditionnelles. Je suis même allé à Cuba une fois, je n'ai pas pris le visa pour vous dire. Non, c'est au moment de ressortir, j'arrive à Cuba et un policier me reconnaît. Richard Boy, là, oui, c'est moi et tout. Et il est tellement excité qu'il me sort du rang. Il me fait passer par un truc là, hop, on est dehors, tu sais, très cubain, très, très excité. C'est un joueur de bongo, en fait. Il m'invite à la jam session. Du coup, j'ai pas pris de tampon pour rentrer. Et j'oublie, au moment de sortir, on dit, mais monsieur, comment vous êtes rentré là? Mais vous êtes arrivé quand? J'ai dit, je suis arrivé il y a 6 jours. Mais comment vous êtes rentré au cachet? J'ai dit, mais j'ai pas pris le cachet parce que quelqu'un m'a... C'est qui ce quelqu'un? Et là, je pouvais pas donner son nom. Et là, j'ai dit, non, je vais pas le planter, le mec, et tout. Je suis resté 2 heures à l'aéroport. Et les coups de fil là, et finalement, allez, les gars sont arrivés, on m'a laissé. Maintenant, c'est l'artiste et tout.
On m'a laissé partir. Donc, je suis toujours fourré à Cuba ces dernières années, pour, comme j'ai fait pour le Brésil. Quoi. J'allais souvent, je passais du temps. Comme je vais faire pour le flamenco, lorsque je dis je vais aller aussi, j'ai envie d'inclure aussi. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, mais mon livre d'histoire est en train de me guider vers la Roumanie. Chez les gypsies roumains, est en train de me guider chez les gypsies bulgares. Et je sais qu'il y a de la something.
La Terre ne va plus vous suffire, monsieur. Il va falloir aller jouer sur la planète Mars bientôt.
On ira là-bas aussi. S'il faut aller là-bas, d'accord. Then we go there.
Donc dans 20-30 ans, on se donne rendez-vous sur place.
En 10 ans, je dirais.
D'accord. Quoi qu'il en soit, pour le moment, vous êtes dans l'univers afro-cubain, comme nous l'avons bien compris tout au long de cette émission. Neondo, Richard Bona en 2016 sur l'album Heritage ou Héritage avec vos partenaires afro-cubains. Merci beaucoup, Richard Bona.
C'est moi, merci. Et c'est toujours un plaisir de venir voir ici.
Je signale que vous serez prochainement en France le 24 juin au festival Django Reinhardt, qui en raison des inondations survenues récemment à Paris et dans sa région ne se déroulera pas à Samois-sur-Seine mais à Fontainebleau. Mais cela n'empêchera pas de célébrer Django Reinhardt. Vous sentez l'héritier d'un personnage comme Django, Richard Bona?
Django est international, man. I am Django. I'm a black gypsy, comme je t'ai dit. Je suis Django, je suis Duke Ellington, je suis Stevie Wonder, je suis Quincy, je suis Prince, everybody else, you know what I mean? Je suis Aznavour, je suis, you know, everybody. Paul Prébois, name it, everybody. That's right, they're all my brothers.
Vous serez également à Jouant-les-Pins le 21 juillet, au Paris Jazz Festival dans le Parc Floral de Paris-Vincennes le 24 juillet. Et puis ce sera Tokyo au Japon, et puis cet automne en région parisienne à Boulogne-Billancourt et Courbevoie. Merci beaucoup.
C'est moi.
Vous avez une petite exclusivité à nous offrir.
Ah oui, en exclusivité, je vais te faire écouter mon prochain projet.
Waouh.
Le projet cubain n'est même pas encore sorti, qui vient déjà vendre le prochain projet. Ça s'appelle du mauvais business.
Ah, ça s'appelle du teasing.
Oui, je vais te faire un petit teasing de mon nouveau projet flamenco.
Très bien.
En exclusivité pour toi, tu vas le jouer, tu vas jouer les deux premières minutes, voilà.
Alors là, moi je dis merci Richard Bona. Vraiment, quel privilège.
Thank you.
En exclusivité mondiale, les premières notes du prochain album de Richard Bonin, un flamenco afro-planétaire.
Voilà, voilà, un autre héritage de, voilà, je vais dire.
Et ça sera donc pour 2017.
2017, ouais.
Merci beaucoup, Richard Bonin. Soyez le bienvenu. Merci, à nouveau, Joe. Quand vous le voulez. La semaine prochaine, c'est le saxophoniste Branford Marsalis qui sera notre invité à quelques jours de ses prestations au New Morning à Paris, les 27 et 28 juin. Merci à Jérémy Besset qui réalisait cette émission avec talent et précision. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.